supprimer l'armée et la remplacer par des volontaires, à quoi rime cette idée? Par les temps qui courent au Burkina ou après le coup d'État, les forces d'occupation occidentales ont réussi à déconnecter l'armée nationale d'une part et les forces volontaires de l'autre. Une telle idée ne vise qu'à mettre l'armée face aux forces volontaires. C'est à travers une analyse d'un certain Codroago Ouédraogo qu'on tente de lancer cette idée. Codroago Ouédraogo appelle à supprimer de l'armée de métier au Burkina pour la remplacer par une armée de volontaires. Il s'en explique, ce n'est point une nouvelle suggestion puisque déjà, dans Ouédraogo 2016, j'appelais à la suppression de l'armée dans sa forme actuelle. Plusieurs raisons militent en faveur de cette conclusion. L'armée est le tendon de l'Achille du Burkina. Elle est cette institution à laquelle le pays doit tout ce qu'il est bien, comme en mal, mais plus en mal qu'en bien. En 62 ans d'indépendance, l'armée a confisqué le pouvoir pendant 48 ans. Dans ce contexte, dire que le Burkina Faso est un produit de son armée est donc une laplacidate. Dans tous les domaines, le Burkina est le moins bien loti parmi ses voisins, développement, économique, social, etc., lit-on dans cette analyse. Une dissociation qui cadre à merveille avec la stratégie adoptée par la France et ses complices américano-otaniens, laquelle stratégie consiste à dresser non seulement de nouvelles bases près des frontières nigériennes et maliennes, histoire d'y entraîner, comme on a eu des images des terroristes, à l'effet de les envoyer contre les villages burkinabés, et d'y commettre, comme là encore on a eu les images, des massacres éhontés, mais encore à accélérer le pillage des richesses nationales. Après deux décennies de progression fulgurante, l'industrie de l'or commence à montrer des signes de faiblesse au Burkina Faso, pays durement touché par la crise sécuritaire. Inquiets, les professionnels tentent tant bien que mal de sécuriser ce secteur qui représente plus de 70% des exportations du pays. Confronté à une recrudescence d'attaques djihadistes, le Burkina Faso compte ses morts. Le pays a entamé mardi 14 juin trois jours de deuil national après l'attaque contre le village de Seitenga qui a fait 79 victimes, le plus lourd massacre depuis un an. Lit-on sur France 24 à ce sujet. Le massacre de Seitenga, qui aurait pu être commis par ces mêmes forces occidentales, qui cherchent à prouver par A plus B que l'armée est faible et qui font un retour massif des forces étrangères pour en assurer la sécurité, eh bien maintenant c'est le tour de créer des dissensions entre armée et forces populaires. RFI dit à ce sujet, alors que le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, était en visite à Dori et à Seitenga, mercredi 15 juin, auprès des populations déplacées et des soldats, de nombreux Burkinabés, politiques, acteurs de la société civile ou simples citoyens sur leurs réseaux sociaux, attendent des explications sur ce qu'ils considèrent comme un abandon des populations civiles. C'est révoltant, c'est inquiétant, il n'y a pas assez de mots pour qualifier ce qui arrive à Seitenga, lâche Eric Kinda, l'un des porte-parole de Balai Citoyen. Pour ce mouvement, une telle situation ne doit plus servir et il faut en tirer toutes les conséquences. Les terroristes sont venus attaquer le détachement. Ils sont partis et ils ont eu le temps nécessaire de revenir une deuxième fois. On peut donc dire que c'est une population qui a été abandonnée à son propre sort et ça, c'est révoltant et inacceptable, poursuit RFI à ce sujet. En effet, il y a un an de cela, le Burkina Faso a décidé de ne pas accepter les fausses interventions des militaires occidentaux, qui ne sont pas sur le continent pour la lutte contre le terrorisme, mais plutôt en qualité d'occupants. Les Burkinabés ne pouvaient pas accepter cela. Le pays a opté pour une résolution du problème au niveau national et même régional, tout comme beaucoup de pays du continent. Le Burkina a créé une force de défense populaire, une initiative qui a été reproduite dans beaucoup d'autres pays africains. Les BDP ou les groupes ethniques dans les pays du Sahel qui prennent les armes pour défendre la patrie sont une initiative que la France a toujours cherché à saper et à torpiller pour maintenir la dépendance des États africains aux coopérations militaires avec l'Occident. Le plan occidental, c'est que le Burkina doit tomber, mais c'est loin d'être gagné. première opération US-OTAN depuis le déploiement de Barkhane dans ce pays a enfin eu lieu. Des frappes aériennes de l'armée française auraient fait près de 40 victimes parmi des djihadistes près de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso. Lit-on sur africanews.com. Mais les Nigériens ne sont pas prêts à oublier que lorsqu'ils avaient bloqué la route au convoi français, c'était bel et bien l'armée française qui avait tiré sur les manifestants et même le gaz lacrymogène que les médias avaient imputé aux forces armées nigériennes. La présence militaire française au Sahel, déployée dans le cadre de l'opération Barkhane, de pseudo-lutte contre les groupes terroristes, est de plus en plus critiquée dans ses anciennes colonies comme au Mali, au Niger et au Burkina et dans plusieurs autres pays d'Afrique de l'Ouest. Et il est clair que ce genre de frappes antiterroristes ne sont que de couverture pour Barkhane et SI de mener leur plan multidimensionnel dans ce pays sahélien qui a longtemps résisté face aux ingérences de part et d'autre occidentales. En étroite coordination avec les FIN, forces armées nigériennes, Barkhane a conduit plusieurs frappes contre la colonne, neutralisant ainsi une quarantaine de terroristes. À noter qu'il est rare que l'EMA, l'état-major des armées, donne un bilan de ses opérations contre le GAT, groupes armés terroristes. Cela étant, il n'a précisé la nature des moyens engagés pour cette frappe. Il est probable qu'un drone MQ-9 Reaper a été sollicité pour cette mission. Et qu'il a effectué les frappes, du moins une partie d'entre elles, étant donné que ce type d'aéronef est désormais armé. Lit-on sur OPEX 360 à ce sujet. Ce ne sont que de fausses annonces concernant l'élimination des terroristes, mais il s'agit également et surtout des opérations d'infiltration dans un pays où jusqu'ici, en dépit de la présence du mégabase USA à Agadez, la force néocolonialiste n'avait pas réussi à faire grand-chose. Félix Tshisekedi durcit encore le ton. Dans la foulée du Conseil de défense du 14 juin, le président congolais a demandé le retrait des troupes rwandaises, accusées depuis plusieurs semaines de soutenir le M23, rébellion active dans l'Est. Il a aussi exigé la suspension des accords qui lient son pays à celui de Paul Kagame. Que se passe-t-il en RDC? Luc Michel, géopoliticien, nous en dit plus.
C'est une tension qui intervient dans laquelle on accuse des Américains. Et beaucoup d'analystes pensent que c'est une guerre américaine, puisque l'Amérique a l'initiative stratégique et qu'elle contrôle à la fois les régimes de Kinshasa et de Kigali. Les choses sont en train de se développer trop mal. Il y a cette bataille comme ça qui a lieu maintenant dans le Kasaï, évidemment, dans lequel les forces armées congolaises sont mal en point, mais qui a reçu le soutien absolu de la population. On accuse également de dans le rôle de l'Ouganda. Ce sont les trois pays qui se disputent évidemment le terrain au Congo depuis la chute de Mobutu. C'est la République démocratique du Congo qui est devenue donc le Congo ex-belge. C'est l'Ouganda Museveni et c'est le Rwanda de Paul Kagame. Ce sont les trois principales puissances qui se sont opposées pendant les deux grandes guerres du Congo. La guerre de 1996 qui a vu la chute du régime de Mobutu et ce qu'on appelle la guerre mondiale du Congo de 1988 dans lequel 10 pays voisins du Congo, 10 forces politico-militaires se sont affrontées pendant cet épisode. Le Congo ne s'en est pas encore remis aujourd'hui. Maintenant, la dégradation entre Kinshasa et Kigali, elle est inattendue puisque les deux régimes prétendaient agir en bon accord, que Tshisekedi s'est rendu plusieurs fois à Kigali, sa femme également, et que les deux régimes étaient isolés. Mais il y a évidemment au centre de cela les intérêts économiques du Rwanda, c'est-à-dire que la soi-disant prospérité économique, le modèle de développement du Rwanda, est dû intégralement au pillage de l'économie des terres des réserves minières, en particulier du coltan congolais qui appartient au Congo. On voit donc mal Kigali renoncer à ses avantages économiques. Écoutez, il y a en tout cas l'Ouganda qui est directement concerné. Et maintenant, le ton monte, non pas seulement entre Kigali et Tshisekedi, mais entre Museveni et Tshisekedi. par exemple, la victoire du M23 et la prise de la ville de Musongala, elle est considérée comme due à l'appui des Ougandais, évidemment. On est à proximité d'une élection présidentielle au Congo, et Tshisekedi ne peut en aucun cas, quels que soient les ordres qu'il reçoit des Américains, il ne peut en aucun cas braquer son électorat au moment où l'opposition, notamment les kabilistes, sont en train de s'unir avec d'autres forces de l'opposition contre lui. Donc, il n'y a pas de raison que les choses s'améliorent. Et évidemment, il faut croire à ce que le conflit s'étende vers l'Ouganda.
Au Mali, la nouvelle loi électorale a été adoptée ce vendredi après-midi, 17 juin, à une très large majorité, mais avec beaucoup de modifications apportées au texte initial qu'avait proposé le gouvernement. La nouvelle loi électorale est censée améliorer l'organisation des futurs scrutins. Plus de transparence, plus d'indépendance, plus de légitimité et moins de contestation possible. Et tout cela grâce notamment à un nouvel organe unique de gestion des élections. Sa création est la mesure phare de la nouvelle loi électorale, l'autorité indépendante de gestion des élections. Elle sera notamment chargée de la préparation technique des scrutins, de l'élaboration du fichier électoral, de la gestion du financement public des partis, du contrôle des dépenses de campagne, de la confection des cartes d'électeurs, de la centralisation des votes, et de la proclamation des résultats. La proclamation, tâche sensible jusqu'ici, était dévolue au ministère de l'administration territoriale. L'autorité indépendante de gestion des élections sera composée d'un collège délibératif, d'un bureau exécutif et d'un secrétariat général, dont les membres seront nommés ou sélectionnés selon des modalités censées garantir leur indépendance et leur probité. Elle disposera aussi de coordination dans toutes les collectivités territoriales du pays, régions, cercles, communes, etc. De façon générale et attendue, la nouvelle loi électorale fixe les règles pour être candidat, pour être électeur, les règles à respecter en période de campagne ou encore les modalités des opérations de vote. Parmi les nouveautés notables, l'instauration pour les législatifs d'un mode de scrutin proportionnel qui vient remplacer le scrutin majoritaire actuel dans le but d'améliorer la représentativité des députés. Le bureau de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, RDC, a gelé le processus de ratification des accords économiques conclus entre le gouvernement et l'Ouganda à cause des déclarations du chef de l'armée de terre ougandaise qui a fait état d'accords récemment conclus entre l'Ouganda et le Rwanda. La RDC accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 qui se sont emparés de la cité de Bunagana dans l'est congolais. Parmi les accords que l'Assemblée nationale devait ratifier figurent la construction et la modernisation de 1182 km de réseau routier principal reliant les deux pays. L'Ouganda et la RDC ont souscrit chacun à hauteur de 20% et d'autres services, l'entreprise de mise en œuvre, devra couvrir les 60% restants, 201 millions USD. Kampala a déjà autorisé le décaissement de 66 millions, alors que Kinshasa ne s'est toujours pas prononcé sur les premiers décaissements. Le projet a été officiellement lancé en juin 2021 par les présidents Yoweri Museveni et Félix Tshisekedi. L'Ouganda a également des accords militaires avec la RDC. Ces troupes mènent des opérations conjointes dans l'est congolais contre les rebelles des forces démocratiques alliées, ADF. Des rumeurs faisaient grand bruit dans les villes congolaises sur un appui présumé de l'Ouganda aux rebelles du M23 qui se sont emparés de la cité de Bunagana, frontalière avec l'Ouganda. Kinshasa n'a pas confirmé ces allégations, mais pointe depuis plusieurs semaines l'appui de l'armée rwandaise aux rebelles qui réclament au gouvernement congolais l'application des accords de paix conclus en 2013. Le classement des 100 villes les plus durables du monde permet de considérer la durabilité sous un angle plus large que celui de la préservation de l'environnement et des économies d'énergie, en prenant en considération des critères économiques et sociaux. 6 métropoles africaines figurent dans le top 100 mondial des villes durables, élaboré par Arcadis, une société spécialisée dans le conseil et l'ingénierie de la conception. Le Caire, qui occupe le premier rang à l'échelle africaine, arrive à la 86e place au plan mondial dans ce classement publié le mardi 14 juin. Le Cap, 89e rang à l'échelle mondiale, arrive en deuxième position en Afrique, devant Nairobi, 96e rang mondial, Johannesburg, 97e, Lagos, 99e et Kinshasa, 100e. 6 habitants de 2 villages dans l'extrême nord du Cameroun ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi 16 juin dans une attaque menée par des combattants du groupe terroriste Boko Haram, de plus en plus présents dans la région, ont indiqué des autorités locales. Les combattants armés du mouvement terroriste Boko Haram ont attaqué les villages d'Angirkima et Biden, situés dans le département du Legon et Chari, près du lac Tchad à l'extrême nord du Cameroun. L'attaque du village d'Angirkima s'est produite à 1h du matin. Les éléments de Boko Haram ont tué 5 personnes et incendié une trentaine de maisons du village avant de se replier dans les îles du lac Tchad, a précisé le maire de Darak, relevant du département du Logone et Chari, Ali Ramat. D'après ce dernier, un autre groupe de Boko Haram a lancé une autre attaque mercredi soir dans le village Biden, situé dans l'arrondissement de Darak. À Biden, les terroristes Boko Haram ont tué un villageois, a précisé le maire de Darak, ajoutant que les assaillants sont arrivés à Biden et à Angirkima à bord de pirogues et de motocyclettes. Il faut rappeler qu'au moins 50 pêcheurs avaient été égorgés par des terroristes Boko Haram dans des villages camerounais à Darak, sur les rives du lac Tchad. Les personnes massacrées étaient toutes des pêcheurs. Les corps flottant sur l'eau n'avaient été retrouvés que le 31 décembre 2020. L'insurrection de Boko Haram, née au Nigeria, a fait des milliers de morts depuis 2009. Le groupe a propagé ses violences au Niger, au Tchad et au Cameroun voisin, où des cellules locales ont vu le jour.